4 avril à partir de 10h30 à la salle du conseil municipal de la mairie Tulerac, Télédrail et Radio Bartas vous proposent Entre Drail et Bartas, un plateau exceptionnel en direct du Festival Vue du Québec. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Bartas. Bienvenue sur Télédrail pour l'émission Entre Drail et Bartas en direct du Festival Vue du Québec, de plateau exceptionnel ce matin grâce à la Nouvelle Dimension et à Guillaume Sapin, directeur du festival, que je remercie du fond du cœur pour m'accompagner ce matin. Est-il encore besoin de vous le présenter? Je ne sais pas. Salut Daniel.
Salut Ben, ça va?
Ça va super, et toi?
Ouais.
Co-programmateur de ce festival, animateur, oui. Je pense que tu interviens quasiment au début de chaque séance. Hein.
Ah oui, j'interviens à toutes les séances.
Même à toutes les séances.
J'anime tout, je m'aime ici. Nous.
C'est un vrai plaisir en tout cas de co-animer cette émission avec toi. Et justement, on fera un petit débrief dans un instant de ce qui s'est passé depuis le début de ce festival. On parlera de la suite avec nos invités et tu nous feras profiter bien évidemment de tes connaissances sur le cinéma tout au long de ce plateau. Et pour ce premier plateau, c'est un plaisir d'accueillir nos deux premiers invités. Le troisième va arriver normalement. Il est en train de courir, ça devrait bien se passer. Patrice Laliberté, bonjour.
Bonjour Ben.
Merci beaucoup d'être avec nous, réalisateur et scénariste. Ton long métrage Jusqu'au déclin est diffusé ce soir à 21h. Et au-delà du fait que ce soit un super film, il a aussi une particularité. On en parle avec toi dans un instant. Ce sera précédé d'un de tes courts-métrages qui s'appelle Le cycle des moteurs.
Exact.
Et le film s'appelle Jusqu'au déclin. Bienvenue. Voilà, on est en direct. Voilà. Bienvenue à toi, Ara. Marie-Josée Pilon, bonjour.
Bonjour.
Tu es la directrice des films Laurentides, les Laurentides qui sont à l'honneur dans ce festival Vue du Québec. On va voir avec toi que cette région, si j'ai bien compris, est un formidable terrain de jeu pour les cinéastes. On va en parler, entre autres. Et tu nous feras une petite carte postale de rêve ici au milieu de nos Cévennes des Laurentides tout à l'heure. Et pour compléter ce premier plateau, bienvenue et bonjour à Rabal.
Bonjour.
Scénariste, réalisateur et globetrotteur, ton premier film, Ouragan, Fuck You, Tabernac. C'est un K au bout, si j'ai bien compris. Hein, c'est ça.
Et c'est surtout des A. Faut mettre des A partout.
Et des A partout.
Tabarnak.
Ça sera diffusé ce vendredi à 21h. Et Quand l'amour se creuse un trou, ton autre long métrage, ce sera samedi à partir de 16h. Merci beaucoup à tous les trois d'être en direct sur Télédrail et sur Radio Bartas. Je salue toute l'équipe technique, Christian Pierrette, Raphaël et Léo pour Télédrail et Radio Bartas. Daniel, c'est quand même plutôt sympa d'avoir un tel festival ici à Florac depuis toutes ces années. C'est la 15e édition. Toi, tu l'animes depuis 2015, me semble-t-il.
Exact.
Tu l'as vu évoluer, ce festival?
Oui.
Grandir.
Ah oui, mais il a évolué, il a grossi, il est juste assez gros. On ne veut pas que ça devienne plus gros. C'est un festival à hauteur d'hommes et de femmes. Tout le monde est accessible et ça, il faut le garder. Il ne faut pas qu'on devienne trop gros. Bon, on a la réputation maintenant d'être le plus gros festival québécois hors Québec. Mais ça nous suffit. Parce que c'est ce qui est très québécois aussi, c'est d'être accessible à tout le monde. On veut pas rien de guindé, rien de prétentieux. Et le commentaire que j'entends depuis le début du festival, les gens apprécient le côté authentique de notre cinéma. Donc, ça serait aller à l'inverse de jouer un jeu de prétention, tout ça.
Ouais, puis ça permet l'authenticité, tu l'as dit, mais aussi cette rencontre entre je crois qu'il y a un peu moins de 20 invités cette année et la population floracoise, quoi. Donc vraiment, on est dans quelque chose, on crée du lien, quoi.
Très intime.
Un début de festival excellent, la suite va être du même acabit, c'est sûr, il y en a pour tous les goûts. Vous coprogrammez avec Guillaume Sapin, qui est directeur du festival des films diffusés ici. C'est grâce à votre complémentarité que vous arrivez à proposer une telle diversité. On en parlait hors antenne, c'est très éclectique.
Oui, particulièrement cette année. Déjà, on voit Ara et Patrice sont très différents. Mais c'est ça avec tous nos invités cette année. Puis en même temps, la base est la même. Il y a cette, je reviens à l'authenticité, il y a cette recherche. Faut savoir, le cinéma québécois vient du documentaire. Donc, cette base de documentaire-là est toujours un peu présente dans nos fictions aussi. Puis je pense que c'est ce qui fait cet attachement. Puis c'est pour ça que la mayonnaise a pris ici à Florac. Je pense qu'on se ressemble beaucoup à ce niveau-là. C'est quand même ici les Cévennes, la région la moins densément peuplée de France. Là-dessus, on se reconnaît aussi. La nature est très proche. Je sais pas, il y a beaucoup, beaucoup d'atomes crochus qui fait que ça fonctionne si bien.
Alors, quelques temps forts de ce début de festival, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a... C'est compliqué parce qu'il y en a déjà eu beaucoup, alors ouais. qu'on est dans le troisième jour du festival, il en reste encore trois et demi.
Ben encore là, c'est la rencontre avec le public. À chaque fois que les gens sortent de la salle, moi, je me mets toujours proche de la sortie. Puis j'aime avoir des échos. Bon, c'est sûr, ils viennent de vivre des émotions, sont pas toujours prêts à les partager, mais il y a toujours un petit commentaire, un petit regard, un petit geste où ensuite on est à la buvette et là, ça, les langues commencent à se délier. Moi, c'est ce que je préfère, c'est vraiment ces moments-là. J'aime discuter avec les cinéastes aussi devant le public, mais j'aime la suite aussi parce que les films continuent à vivre à travers les spectateurs, ils viennent de vivre une expérience et c'est là qu'on sent à quel point notre cinéma touche. Il y en a beaucoup qui sont émus, qui sont touchés et qui vont porter ça quelques journées. Puis moi je trouve courageux les gens qui enchaînent plusieurs films. Moi, je le fais par expérience parce que c'est mon travail. Mais de vivre ces émotions-là, ben il y en a certains qui veulent pas tout de suite voir un autre film, qui veulent digérer, vivre ouais. Ce qu'ils viennent de traverser. Puis c'est des émotions fortes. Dans le cinéma, l'art, c'est ça. C'est d'être touché, de se mettre vulnérable un peu comme spectateur. Et les réalisateurs, réalisatrices aussi se mettent vulnérables en racontant leurs propres histoires aussi.
Puis accrochez-vous, hein, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, je dois dire ça maintenant.
Oui, on a des caméras.
parce que ce qui vous attend va encore être absolument fabuleux. Là, il y a un week-end juste de dingue.
Ah oui, c'est loin d'être fini. Là.
Oula.
Oh. Ouais, c'est juste un amuse-bouche.
Et je discutais avec quelqu'un du jury tout à l'heure hein, qui ne m'a rien dit sur ce qu'il pensait, etc. Mais qui disait, alors, on a vu deux films en compétition. Là, on va galérer pour départager à la fin. Et moi qui ai vu les films qui suivent, oui, vous allez galérer. Fallait pas se présenter. La suite va être du même acabit, c'est sûr, avec notamment ce soir, la soirée. Ça, c'est un peu une nouveauté hein, cette année. Chaque soirée a un thème. Hein. Ce soir, c'est la soirée. Il n'en restera qu'un.
Exact. Survivalisme.
Le survivalisme. Et bien, rentrons dans le vif du sujet avec ton film, Patrice, jusqu'au déclin. Ah, les survivalistes. C'est la toile de fond de ton film. Avant d'en parler, il a une particularité, ton film. C'est le premier film québécois financé par Netflix. Exact. Explique-nous comment cette aventure a commencé et ce qu'elle t'a permis.
C'est une aventure que moi, j'y croyais pas à la base. Là, je pensais vraiment pas que ça allait m'arriver. Netflix est venu au Canada, on lançait une demande de pitch, mais en l'espace de un mois. Là, donc la demande, puis il fallait pitcher le projet un mois plus tard. Puis je me suis présenté et ça a été un coup de cœur assez rapide. Et moi, j'y croyais pas. Là, c'était comme un truc un peu « Ah, ouais, on trouve ça intéressant ». Puis après, on n'a pas eu de nouvelles pendant quasiment deux mois. Puis on se dit « Ah, ça se peut que ça soit pas nous ». Puis éventuellement, on est allé à Toronto, puis on a eu un petit meeting avec eux, puis on était comme « quand est-ce qu'on va savoir si on tourne ou pas ?» Et la personne m'a juste répondu « Ah, ben, il m'a tendu la main ». Et je savais que le deal était scellé. Et quatre mois plus tard, deux mois plus tard, on commençait la pré-production avec Marc-Josée. Marc-Josée a beaucoup aidé au niveau de la location, tournée dans Laurentides. Donc, on s'est promené dans des fins fonds de bois à trouver cette cabane de survivalistes.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout le monde s'est essayé. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui voulaient être les élus. Puis vous autres, c'était votre premier film parce que Très belle journée, tu as dû l'arrêter.
Exact.
Donc, ils ont vraiment gagné le gros lot. Là. C'est qui allait gagner le gros lot Netflix? Nous, on entendait les coulisses un peu de ce qui se passait, tous ceux qui avaient présenté des projets. Mais j'étais tellement content que ça soit vous parce que Nicolas Krief, qui est un des co-scénaristes, qui a déjà fait de la radio avec moi, donc j'avais une affection pour votre projet, puis j'étais très content. Surtout que le cinéma d'action, puis du cinéma aussi d'hiver, parce que c'est tourné en hiver, moi j'apprécie beaucoup, puis c'est tellement rare au Québec qu'on a les deux ensemble.
Exact, puis c'est Netflix qui nous a permis de tourner l'hiver, puis parce qu'à la base, le scénario se passait pas l'hiver, puis... Ben parce que c'est très dispendieux de tourner l'hiver.
Ouais.
Puis comment que c'est fait en production au début? Ton premier film, c'est rarement un budget de cette envergure-là au Québec. Donc, on peut même pas penser, imaginer faire un film qui se passe l'hiver parce qu'on sait que ça arrivera jamais. Fait que c'était un film qui se tournait l'automne. Et quand Netflix est arrivé, je leur ai dit, ça vous tente pas l'hiver? Moi, j'adore la nordicité, je trouve ça. C'est un... Puis les yeux, ils ont ouvert grand. Ils ont fait, ouais. Puis donc, on a tout réécrit le scénario. Donc, à la base, c'était des VTT, là, c'est devenu des motoneiges.
Je me pose la question, est-ce que financer, ça veut dire produire?
Ça veut dire produire.
Et est-ce que, donc, ils ont eu, au-delà du fait de l'hiver où toi tu l'as proposé, est-ce qu'ils ont eu un droit de regard sur ce que tu faisais, sur ton travail?
Très peu. Au niveau du casting, on a eu des discussions et je trouve qu'ils ont amené le projet ailleurs. Ils m'ont pointé plein de gens au niveau du casting. Je vais, c'est intéressant. Puis j'avais pas cette appréhension-là à la base. Je pensais pas que ça. Donc ils ont bifurqué au niveau du casting, mais au niveau du scénario, ils m'ont laissé carte blanche. Au complet, ils m'ont toujours laissé carte blanche. J'ai jamais senti leur souffle derrière ma nuque. Donc, mais ça a été une grande liberté.
Mais y avait-tu quelqu'un de l'équipe de Netflix en permanence sur le plateau?
Non. Ils sont venus... Netflix est toujours en lien avec le tournage. Donc, il y a une personne qui est là et qui envoie à la minute seconde qu'est-ce qu'on est en train de tourner, qu'est-ce qu'on fait. Cette personne-là, elle est comme responsable du lien. Mais sinon, ils sont venus une fois sur le plateau. Habillés comme des Californiens, en Converse.
En plein hiver.
Ah ouais. C'était... Wow. Ils n'ont pas resté longtemps. Ils ont rapidement trouvé la roulotte chauffante. Puis ils ont passé la journée là. Puis ils étaient très impressionnés. Puis c'était une bonne journée aussi parce qu'on faisait de l'action. Fait que c'était super le fun. Il y avait de la cascade. Fait que pour eux, c'était le fun à regarder. Des fois, on tourne deux conversations. Puis c'est pas la meilleure scène. Mais là, c'était comme une scène où il y avait des combats, la cascade. Fait que pour eux, je pense que ça a été super...
En tout cas, carte blanche. Donc, tu as eu carte blanche avec Netflix, tu as carte blanche avec le festival, avec Couronne Nord.
Exact.
Ouais. L'année de la carte blanche, quoi.
Ah, on les remplit.
On va en reparler de Couronne Nord dans un instant. Jusqu'au déclin, ça parle de survivalistes, des personnes qui ont peur, à tort ou à raison d'ailleurs, on peut en parler, peur d'un désastre, peur de tous les scénarios apocalyptiques. Est-ce que tu en as rencontré avant de faire le film?
Oui, certainement, j'en ai rencontré. Ça a beaucoup changé mon image d'eux aussi. Moi, je trouvais ça intéressant quand même, le survivaliste. Le survivaliste, c'est un truc qui est très large, à la fois très agriculture, autonomie, mais après, il y a aussi défense de son territoire. Puis c'est là que moi, je n'y adhère pas du tout. Mais ça m'a permis de rencontrer des gens accueillants, gentils. Fait que là, il y a vraiment eu un au niveau de l'écriture du personnage d'Alain, le personnage principal qui est survivaliste, qui donne les formations, j'ai vraiment transformé ce personnage-là suite à mes rencontres avec eux. Puis c'est super important aussi pour moi Daniel parlait du réel. Moi, je me baigne dans le réel pour travailler. Je trouve ça important. Fait que je fais une grande recherche au niveau du territoire. Guillaume Lorrain, qui joue le personnage principal, a, lui, participé à des camps survivalistes. Donc, il a passé deux nuits dans l'hiver, dans le bois, à se construire une cabane.
Auditeurs, auditrices, vous aurez le son, télédrail, vous aurez l'image. Bande annonce.
Les épiceries dans les villes comme Montréal, là, sont approvisionnées aux 3 jours. Ça veut dire que si au bout de 3 jours, les camions sont pas repassés, il n'y a plus rien ces tablettes, là.
Pour ça, aujourd'hui, le tuto sur le Milard.
S'il y a une crise économique, ou si la planète se réchauffe encore plus, les gens vont avoir faim, puis nous, on va être prêts.
Puis n'oubliez pas, pour vivre, il faut survivre.
Là, je vais vous expliquer c'est quoi une base autonome durable de survivaliste. Là, j'ai 6 panneaux qui me donnent 2600 watts. Il y a un poulailler. Là-bas, une serre, les deux sont chauffés. Ça, c'est ce que j'appelle les chemins d'évacuation. Ça, c'est en cas d'attaque. Puis on s'entend, là, c'est pas des sentiers pour la promenade. La protection de vos ressources puis votre territoire, c'est la clé de votre survie dans un climat de chaos.
Mais vous devez savoir que c'est pas tout le monde qui a votre gros bon sens. La manière, ils vont tout faire pour vous voler ce que vous avez fait. Puis quand ça va arriver, moi, je veux pas que mon monde change.
As-tu peur?
On dit pas que c'est un accident de chasse.
Steve Lang, c'est pas un accident de chasse.
Il faut appeler la police.
T'es supposé trouver une solution ensemble.
Solution pour quoi? Une solution pour tout faire chier?
Je sais pas comment on va réagir dans ce temps-là.
Oui, t'en
fous! On va tout crever, Steve.
Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'abord?
Quand je regarde vous autres, vous des citoyens lucides qui ont un idéal en commun.
Bon matin.
Ah, j'ai la chance de voir le film. Je vous assure que rien que d'écouter le son, ça met dans l'ambiance, Daniel.
Ouais. Marie-Josée, j'aimerais t'entendre, parce que toi, tu as été impliquée pour les lieux de tournage. Comment ça fonctionnait pour toi? Est-ce que tu allais faire aussi des tours sur le plateau? C'était quoi ta relation avec Patrice et l'équipe de Netflix?
C'est une belle rencontre, c'est une belle histoire, parce que j'ai appris que la Couronne Nord avait remporté le prix de Netflix, ou en fait, avait su convaincre Netflix de produire leur film en lisant la presse. Donc ça, c'est notre média national. Donc en lisant la presse, j'ai vu La Couronne Nord fera le premier long métrage de Netflix. Fait que tout de suite, j'ai appelé la productrice qui est Julie Groslon. Puis j'ai dit, tu le fais où, ton film? J'ai lu que c'était dans la grande nordicité du Québec. J'ai dit, je peux-tu t'aider? Elle a dit oui. Et là, tout de suite, on s'est mis en lien avec Patrice et on est parti sur la route ensemble après avoir proposé quelques trucs visuels, quelques photos. Après ça, on a pris la route, on a marché. Parce que ce qu'on cherchait, c'est faut que ce soit éloigné, faut que ce soit retiré. C'était ma compréhension de ce que l'on cherchait. Donc, on a fait peut-être 2 ou 3 semaines de repérage jusqu'à ce que vous finissiez par trouver quelque chose.
Oui, moi, ça m'a paru un mois.
Ben, 2-3 semaines, un mois.
Ah ouais, vraiment, ça a été...
C'est beaucoup de kilométrages qu'on a fait ensemble. Puis, c'est ça, on était heureux qu'ils aient pris la décision de regarder vers le nord et non pas vers le sud de Montréal, mais vers le nord.
Puis, c'était où, finalement, le lieu que vous avez choisi exactement?
Saint-Agathe-des-Monts.
Saint-Agathe-des-Monts, oui.
En tout cas, même si c'est beau, j'ai pas envie d'y aller.
Oui.
Direct.
Oui, et c'est drôle parce qu'elle a
son... Ah non, faut le voir autrement.
Oh, oui, j'imagine.
Il y a du beau à voir, ouais.
Saint-Agathe-des-Monts, moi, j'ai passé une partie de mon enfance là-bas. J'y allais tous les étés. J'ai joué ça sur scène à la soirée d'ouverture.
Alors, dès le départ, on sent une certaine tension, tension qui, bien sûr, va prendre en intensité tout au long du film. Est-ce que ça a été simple de garder les acteurs et les actrices sous cette tension-là? Très sincèrement, je me suis demandé... Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où ça a failli péter des plombs quand même? Parce que...
On avait vraiment une bonne équipe, puis les gens étaient vraiment troopers, comme on dit, là, étaient vraiment engagés dans le processus. Il y a eu une nuit, parce que là, on a tourné l'hiver en février, et je me rappelle d'une nuit assez, assez pénible où on est rentré sur le plateau de tournage et je voyais au thermomètre de la voiture qui faisait moins 28. Et là, donc, il fait moins 28 à 4 heures, à 16 heures l'après-midi. Donc, on sait que ça va être le plus chaud qu'on va vivre. Donc, et ça allait descendre à moins 41. Et j'ai appris aussi que on était sur le bord d'une rivière et j'ai appris que même l'hiver, il y a de la rosée. Et là, quand la rosée se lève et que l'humidité traverse le vêtement, les gens pleuraient. C'est littéralement... La perchiste, elle avait les mains complètement gelées, en larmes. Ça a été très, 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 très difficile. Puis après coup, on est retombé de jour. L'équipe, on a eu l'espèce d'énergie, mais ça a été pénible.
Mais les batteries des caméras?
Les batteries, c'est des professionnels, donc ils étaient chauffés et tout, mais tu sais, il y a eu des pépins routiers où est-ce que le truck, le camion génératrice tombe complètement dans le fossé, fait que là, on n'a pas de génératrice pour faire toute la scène de nuit. Il y a eu 1000 pépins, mais on s'en est bien sortis.
Ara, tu voulais dire quelque chose?
En fait, c'était la même question que mademoiselle, en fait, c'était juste de savoir... Qu'est-ce qui est arrivé avec l'équipement puis tout ça? Ouais,
ben c'est ça, les batteries gelées, mais tu sais, il y avait tout eu une. En fait, on avait un assistant cam qui lui avait fait des tournages dans le Grand Nord. Donc, il y avait vraiment. Tu sais, par exemple, la caméra, il y avait une couturière qui avait fait une housse spécialisée pour la caméra. Donc, puis là, on la réchauffait. Il y avait vraiment cette idée-là de se protéger l'équipement, mais non, ça a été un des grands défis aussi de ce tournage.
C'était combien de jours de tournage?
31.
Ouais. Couronne Nord, on en a parlé il y a un instant. Cette année, vous avez carte blanche. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, puisque tu en es le cofondateur?
Exact. Ouais, c'est une compagnie qu'on a fondée en 2012 avec deux associés, Julie Groslon, Guillaume Lorrain, qui sont. Et on a commencé à cette compagnie-là pour faire des films. Et on a commencé en court-métrage. Et éventuellement, on s'est mis à faire des longs. Et c'est une compagnie aussi multidisciplinaire, donc on fait aussi du théâtre, on fait du cinéma, on fait de l'édition, fait qu'on s'est amusé un peu à tout. C'est comme notre coffre à outils personnel pour nous, pour faire nos projets.
Jusqu'au déclin, c'est diffusé jeudi à 21h. Ce sera précédé de ton court-métrage Cycle des moteurs. Deux cousins qui se racontent des souvenirs, puis qui vont un peu péter un plomb gratuitement, en fait.
Gratuitement, ouais. Tu sais... Ouais, c'est comme... Ouais, c'est un film particulier, mais c'est comme le poids des souvenirs. T'sais, c'est, pour moi, c'est comme c'est, cette idée que ben, la violence, elle est transmise dans l'ADN, dans l'éducation. Donc, c'est deux pauvres types qui se racontent leurs souvenirs d'enfance. Puis bon, c'est deux pauvres types.
Et avec les moteurs de tous les véhicules qui font évidemment monter le... La tension, encore une fois, tout au long des 7 minutes, je crois, 6-7 minutes, il dure.
Exact, oui. C'est beaucoup de souvenirs d'enfance personnelle à aller dans des pits de sable, à faire des donuts avec des trucks, tout ce genre de trucs. Puis mes parents, il y avait un garage, fait que c'était cette idée-là. Et le cycle des moteurs, ben, c'est ça, c'est le cycle de cette violence-là aussi qui peut perdurer à travers les générations.
Les Laurentides, beaucoup de films de Couronne Nord sont tournés là-bas. Toi, tous tes films ont été tournés là-bas?
Ben, presque en partie, sauf le dernier, qui est Très belle journée. Ben, moi, étant issu des Laurentides, des basses Laurentides, moi, c'est, pour moi, c'est un terrain de jeu inouï. Il y a à la fois tellement de possibilités dans ce beau territoire.
Oui, parce que la Couronne Nord, c'est les basses Laurentides.
Exact, c'est ça. Les basses Laurentides. Il faut dire, c'est lorsqu'on dit il y a un trafic, il y a du trafic sur la Couronne Nord, on parle de il y a du trafic dans les Laurentides sur la 15. Donc, c'est vraiment c'est un lieu géographique qu'on nomme la Couronne Nord. Ouais.
Alors, justement, quand je suis allé sur le site pour voir un peu à quoi ressemblaient les Laurentides, Laurentides, je rappelle, qui est la région à l'honneur cette année dans le festival. La première phrase d'accroche qu'on lit, c'est « Notre décor, votre scénario ». Marie-Josée, tu es la directrice des films Laurentides, c'est un terrain de jeu génial pour les acteurs et réalisatrices. Est-ce qu'on pourrait avoir comme ça une petite description des paysages de ce que sont les Laurentides?
En fait, oui, c'est un des principaux atouts, c'est la diversité des paysages. Donc, Patrice en a parlé, les Laurentides, on parle des basses Laurentides, des hautes Laurentides. Donc, quand on quitte Montréal et qu'on traverse les rivières, qu'on arrive sur l'île de Laval, par la suite, on traverse un autre pont, et là, enfin, on arrive dans la région des Laurentides, ce qu'on appelle les basses Laurentides. C'est à peine à 30 minutes à l'extérieur de Montréal. Donc, c'est plat, c'est le début des vallées. Donc, Mirabel, Oka, Saint-Eustache, on parle plus d'agglomération, on parle plus de terres agricoles qui sont plates. Mais plus on va vers le nord, plus arrivent les vallons. Donc, quand on arrive dans la municipalité de Oka, quand on file un peu plus au nord dans la vallée de Harrington, quand on continue encore plus au nord dans le coin de Saint-Sauveur, là où on fait du ski, ou à Tremblant, là où il y a la principale station de ski, c'est pas comparable aux stations de ski d'Europe, mais quand même, ben c'est la diversité. C'est ce qui fait qu'on puisse avoir autant de productions qui s'y intéressent. Et c'est le fait aussi qu'on puisse y tricher des destinations autres que le Québec. À savoir, on peut tricher les Smoky Mountains du Tennessee aux États-Unis, Upstate New York ou encore quelques parties de la France.
Oui, ben, moi, à chaque fois qu'elle nommait des villes, ça me rappelait des souvenirs. Parce que c'est ça, c'est un peu là qu'on fait de la villégiature quand on est Montréalais. On va soit là ou de l'autre côté, dans les cantons de l'Est. Mais moi, ma jeunesse, c'était surtout dans les Laurentides. Puis c'est vraiment incroyable. Et Mirabel, c'est là qu'il y avait le plus gros aéroport à l'époque. Tout le monde arrivait au Québec par Mirabel. Ça a été transféré à Dorval par la suite. Mais plein de souvenirs aussi d'avoir atterri à Mirabel et décollé.
Alors, donc on comprend, t'as accompagné beaucoup, enfin, en tout cas, Laurent Tichfield, là, pour tout le projet de Netflix. Est-ce que vous avez d'autres missions, en fait, qu'est-ce que vous proposez aux cinéastes à travers Laurent Tichfield?
En fait, la mission de film Laurent Tichfield, c'est de promouvoir le territoire, accompagner les équipes de tournage et stimuler le développement économique, touristique et culturel. Et c'est notre unique mission. Donc, on n'est pas une agence touristique, on est vraiment une commission de films, comme il y en a un peu partout dans le monde, comme il y en a évidemment partout dans les régions de France. Donc, mandat unique, principalement axé sur l'accompagnement et services aux productions.
Et moi, tu as dit un truc intéressant, tu es capable de te comparer à certains lieux comme aux États-Unis. Comment tu fais ces comparatifs-là? Ça veut dire qu'il faut que tu ailles visiter d'autres lieux pour savoir ce qui peut ressembler à ta région?
J'aimerais bien pouvoir aller les visiter, les pays étrangers, mais disons que si on sait que l'action se passe dans une certaine municipalité, que ce soit, par exemple, on a déjà triché la Russie. Bon, je vais pas me déplacer, on va plutôt aller voir les photos, les comparaisons, on va s'inspirer de ce que l'on trouve. Souvent aussi, le réalisateur va nous envoyer ses photos d'inspiration. Un storyboard même peut nous aider à visualiser ce qu'il recherche. Puis à partir de notre banque d'images, ce qui est notre principal outil de travail, parce qu'on l'a développé depuis les 27 dernières années, ça veut dire plus de 10 000 lieux de tournage potentiels que l'on a répertoriés dans notre banque d'images. Alors, on peut se permettre d'envoyer peut-être 50 maisons au bord de l'eau pour trouver celle qui sera, par exemple, celle qui a été choisie pour Simple comme Sylvain. Monia Chokri a eu la chance d'en voir peut-être une cinquantaine, d'en visiter une dizaine et d'avoir son coup de cœur pour celui qui finalement a été porté à l'écran.
Je crois, d'après les chiffres, vous êtes à plus de 650 films tournés en Laurentide depuis une vingtaine d'années à peine.
Absolument.
C'est un chiffre colossal quand même.
Quand on a commencé cette commission de films-là, on était tout heureux d'avoir attiré 5 tournages la première année, puis 10, puis 12, puis 20. Puis aujourd'hui, on est heureux d'atteindre une moyenne de 40 tournages par année. On a déjà atteint 50, mais c'était post-pandémie. Donc, c'était normal qu'il y ait une hausse. Mais sinon, la quarantaine de productions qui génère plusieurs millions de retombées économiques.
En Lozère, pour un petit titre de comparaison, en 20 ans, c'est 38 films. Voilà. C'est déjà pas mal, mais comme ça, ça permet de faire un petit ratio un peu pour se rendre compte. Voilà. Est-ce que vous aidez aussi dans l'accompagnement financier, matériel? Est-ce qu'il y a tout cet accompagnement aussi pour les cinéastes?
Matériel, non, parce qu'on est très près de Montréal. Donc, les équipes vont arriver, incluant les techniciens. On n'a pas une masse de main-d'œuvre dans notre région du fait que l'on est vraiment à proximité de Montréal. Donc, une production pourrait venir tourner dans les Laurentides et revenir dormir à Montréal. Ou encore, comme dans le cas du film de Patrice, l'hébergement devait être fourni pour toute la production. C'est là que se génèrent d'importantes retombées économiques. Donc, pas d'accompagnement au niveau de la main-d'œuvre, pas d'accompagnement non plus au niveau des équipements, mais de l'accompagnement pour le financement, pas encore, si je peux dire, mais on travaille à développer avec le gouvernement du Québec des incitatifs qui permettraient d'avoir des bonifications, un peu comme il en existe dans d'autres destinations, une bonification au crédit d'impôt lorsque l'on tourne à l'extérieur du Grand Montréal.
Il y a un petit pictogramme dans le programme pour les films qui ont été tournés dans les Laurentides, qui sont diffusés lors de ce festival. C'est combien? Vous diffusez 6 films, je pense?
Ça, c'est Guillaume qui le sait.
Très bien.
Et je pense que c'est
5 longs-métrages et 4 courts.
Ah, voilà.
Ça fait
8
ou 9.
On doit être dans ce ratio. Regardez le programme, auditeurs, auditrices, vous allez voir. Et téléspectateurs, téléspectatrices, on change de décor. Avec un film en compétition, son réalisateur Arabal, L'Ouragan Fuck the Tabernac. Je l'ai bien dit.
Avec Fuck You.
Fuck You Tabernac. Ouais, je voulais tellement mettre 2 A que j'en ai oublié le Fuck You. Qui sera diffusé ce vendredi à 21h. Et ton autre film, que j'avoue que je n'ai pas vu, Quand l'amour se creuse, ce sera samedi à 16h. Alors, L'Ouragan, c'était d'abord un court-métrage qui est sorti en 2013. C'est un long depuis l'année dernière, un processus de 10 ans. On plonge au début des années 90 dans le mouvement punk et la misère sociale. Comment ça s'est passé, ce passage du court au long, au-delà du fait que ça a été long, puisque ça a pris 10 ans quand même?
Ouais, en fait, quand j'ai écrit le court-métrage, j'ai jamais prévu en fait de faire un long-métrage, mais tu sais, le court-métrage, c'est vraiment une proposition qui est très dark, qui est très intense, puis on a juste accès à un petit moment à cet enfant-là. Et je me suis dit, ça serait tellement plus intéressant de voir un peu l'avant et l'après, pas juste avoir quelque chose qui est dark, parce que oui, je signalais un moment vraiment important pour un petit garçon, puis je voulais comme nommer de où il vient et comment qu'il est en fait, même si le court-métrage était intense, ça a été montré avec beaucoup d'humanité, mais de ma part en fait, mais j'ai pas eu accès à pouvoir le développer encore plus loin. Puis avec le long métrage, une année après le succès du court métrage, je me suis dit j'aimerais ça embarquer dans cette aventure, mais le processus a été très long, puis c'était plusieurs étapes en fait. J'ai allé vers les institutions, j'ai eu le financement pour l'écrire, je l'ai écrit pendant un an et demi, puis là je l'ai laissé reposer, je me suis concentré sur d'autres courts-métrages. Mon premier long-métrage, et après ça, en 2019, j'ai retombé dans l'écriture avec Tania Duguay, et là, elle a co-écrit le film avec moi. Elle a su attacher des liens au scénario que moi, je ne voyais pas, en fait. Fait que la connexion qu'on avait ensemble était vraiment primordiale pour pouvoir continuer la suite de l'histoire.
Le film démarre en couleur. Et puis ça avance tout doucement. Le choix artistique a été le noir et blanc qui montre en fait la transition de Delvis, entre Delvis et l'ouragan. Ça te coulait de source, ce choix artistique? Est-ce qu'il, dans ta tête, c'était déjà comme ça quand tu l'as écrit? Ou alors est-ce qu'il est arrivé parce que tu t'es dit, tiens, c'est ça qu'il faut faire?
Ben, je pense avoir le film, parce que c'est quand même un film qui est assez violent, puis assez sale aussi, dans la DA qui est vraiment formidable de David Blanchard. En fait, ça aurait été, pour moi, c'était intéressant de au moins donner un break aux spectateurs pour que les premiers 10 minutes soient en couleur. Et aussi, on n'a pas encore accès à l'ouragan. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant que l'univers de Delphis, en fait, qui est la réalité. C'est pas que l'univers de l'ouragan n'est pas réel, mais c'est vu à travers... C'est la violence vue à travers les yeux d'un enfant. Alors, pour moi, l'avoir en noir et blanc aussi, noir et blanc, c'est vraiment une esthétique que je connais très bien. Puis je voulais comme baigner l'univers là-dedans, le punk, toutes mes références de New York, du punk en tant que tel, des années 80-90. Il y a beaucoup, beaucoup de photos en noir et blanc aussi. Puis Daniel a dit quelque chose de vraiment intéressant au début. Il parlait que le lien qu'on a tous en commun, en fait, c'est le documentaire. Et je suis très d'accord parce que moi, je suis un enfant du NFB. En fait, ma mère, elle m'amenait à un cinéma qui s'appelait le Cinéma 5. Et je voyais tous des documentaires puis des animations de l'NFB, parce que Montréal était vraiment comme généreux à nous montrer toutes ces affaires-là, même les débuts de Pixar. Puis pour revenir au noir et blanc, il y a beaucoup d'affaires, en fait, en termes de visuel que moi, j'ai cherché dans ma mémoire collective que j'avais depuis que je suis enfant. Fait que toutes ces images qu'on voit là et l'aspect documentaire aussi fait partie de mon œuvre. Fait que le noir et blanc, c'est juste normal, en fait.
Daniel.
Je veux juste préciser, parce que NFB, je suis sûr que là, on vient de perdre beaucoup de monde, c'est National Film Board, l'ONF en français. Ici, c'est l'Office national des forêts. Nous, c'est l'Office national du film, National Film Board. Oui. Et on a accès gratuitement aux films de l'ONF, maintenant en ligne, mais à l'époque, il y avait des lieux où on pouvait aller louer les films de l'ONF. Il y avait beaucoup de projections aussi dans les salles. Donc oui, je pense qu'on est tous un peu des enfants de l'Office national du film qui a marqué notre imaginaire, parce qu'il faut... l'ONF avait deux spécialités, cinéma d'animation, court-métrage et long-métrage documentaire. Donc on a beaucoup baigné là-dedans.
Un peu de son, un peu d'image, bande-annonce.
Mon père m'a dit qu'il y a deux sortes de personnes dans la vie.
Je te sors après l'école.
Les gars, je l'ai!
Ceux qui étouffent, qu'on aille pour rien. Puis, il y a ceux qui écrasent, qui font la loi. T'es un ou l'autre.
L'ouragan!
Faites de même. M'appelle l'ouragan. Y'a personne qui va me changer. C'est clair!
Oui? Est-ce que votre garçon Delphi, c'est là? On a deux plaintes contre lui.
Je sais plus quoi faire avec toi.
Il n'y a pas du 6, ça. Dans la vie, faut que tu t'en fasses par toi-même.
Personne ne veut m'aider. Enfin, je me débrouille. Je me sors ma propre main. Une tempête bien violente. J'ai trouvé ma place à côté du système. Avec une gang de jeunes comme moi. Des rebelles à quelle tête, ses épaules.
Il est venu à Grotte d'Ouragan.
En veux-tu une?
J'ai déjà fourré qu'un film.
Oh my god.
Dans une fille, moi, un peu, hein.
T'as des bijoux de
cherche? Ouais, sorry.
Va chier.
Je pensais que vous étiez des punks.
C'est pas une raison pour envoyer chez tout le monde, ça.
L'ouragan!
l'ouragan. Rappelle-toi ça.
Tu reviendras quand tes poils d'homme vont avoir poussé.
Si vous avez des clichés sur la culture punk, allez voir ce film. Parce que, en fait, le moment, il a une violence en lui, hein, le Delvis. Et à un moment, quand il rentre dans la grotte, dans ce squat, avec toute cette bande, c'est un moment où, ok, il va commencer à respirer et à se trouver une vraie famille, à retrouver un ancrage dans quelque chose qui l'a perdu, qui perd. Ça fait du bien.
Ouais, quand même. Mais en fait, ce que je voulais faire, c'est parce que. Il y a quand même beaucoup de films sur des jeunes ou du monde qui ont des familles brisées. Puis habituellement, on le voit de la point de vue de la système. Puis moi, je voulais voir hors. En fait, c'est possible, surtout dans les années 90 à Montréal, il y avait beaucoup de jeunes dans la rue. C'était quand même quelque chose qu'on voyait beaucoup sur les nouvelles. Puis c'était quelque chose que moi, je voulais explorer, en fait. Moi, je me disais, ben l'ouragan, il vient des années 90. Ça serait fort intéressant qu'il voirait d'autres jeunes filles et garçons comme lui. Pas garçons, mais jeunes adultes, en fait, comme lui, qui viendraient du même milieu. Puis je trouvais ça intéressant qu'eux autres, ils formeraient à leur façon hors du système, parce qu'eux autres aussi sont des enfants qui viennent de violence.
Et pour ton casting, parce que tout repose sur Delphine, comment t'as procédé? C'est pas le même acteur qui était dans le court-métrage, parce que là, trop de temps avait passé. Donc, combien t'as vu de jeunes pour arriver à Delphi, et pourquoi lui?
En fait, on est arrivé à... On a passé vers 200 jeunes environ, 200 cassettes. C'était quand même assez... On le savait, c'était lui dès le début. Dès qu'il est rentré, avec des grosses bottes. Lui, il vient de des Laurentides, en fait.
Ah oui?
Ouais. il vient de Mont-Tremblant. Puis il est arrivé, puis il a amené, en fait, je dis beaucoup le mot humanité, mais c'est ça qu'on recherchait dans ce film-là, surtout, là, même si le film est très crasse. En dessous de ça, il y a quelque chose de très vrai et très humain, puis c'est ça que le petit garçon a dégagé. Il a dégagé quelque chose de très vrai, mais en fait, on a passé à travers beaucoup de jeunes garçons pour arriver à lui, mais lui était tout en discussion, puis on aimait son visage, on aimait qu'est-ce qu'il dégageait, puis c'est vraiment celui qui sortait du lot pour être capable d'encaisser toutes ces affaires-là, c'est boire, fumer, sacré, engagé en sexualité, en violence, accompagné de sa mère, puis vraiment une équipe autour de lui, on l'a protégé autour de ça, mais il y avait aussi la maturité de comprendre qu'est-ce qui embarquait dedans. T'sais, c'était pas juste une folie.
Ouais, puis une des forces, je trouve, c'est qu'il a un visage très doux, mais en même temps, il est capable d'une grande violence puis d'une grande rage. Mais j'aimais la dichotomie avec son visage qui est quand même très doux.
Visage enfantin.
Oui, exactement.
Qui respire l'innocence.
Ouais.
Ouais, mais il y a quand même des affaires, ses lèvres ou ses dents ou son nez. Tu sais, il y a des choses qui démarquaient. Qui dépeignait un peu cette pauvreté qu'on voulait voir, pas que l'art comme ça, mais tu sais, avec la CCM et tout ça, on était capable de sortir que visuellement qu'est-ce qu'on recherchait. Mais oui, il y avait cette innocence là qui était vraiment important de démontrer, parce que l'ouragan, c'est pas juste un mauvais enfant, en fait, c'est juste un enfant qui voit la violence, il l'interprète de sa façon, en fait, que moi, je pense, beaucoup de jeunes garçons font encore à ce jour.
Ouais. Et CCM, excuse-moi, c'est pour coiffure, costume, maquillage.
Merci de m'aider avec ça.
Perfection, qu'est-ce que je ferais sans toi? En tout cas, et pour finir là-dessus, là, c'est difficile de rien divulguer, hein, parce que il se passe énormément de choses dans ce film. Il garde quand même un attachement familial à sa maman, bon, à son petit frère aussi, hein, le Shinedi, et à son père malgré tout, et ça, c'est inhérent à tous les enfants, en fait, et peu importe le contexte dans lequel on vit, il y a quand même ce petit truc-là qui le suit un peu en fil rouge.
Ben, en fait, je trouve que c'est facile de juste voir les choses de façon noir et blanc, qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mauvais. Puis moi, avec l'ouragan, c'est pas ce que je voulais faire au niveau familial, la famille elle reste importante. Surtout d'un point de vue d'un enfant, il n'y a pas de bon ou de mauvais. On n'a pas cette compréhension-là. Et ça vient créer des nuages dans notre tête. Fait que l'ouragan, il est juste là. En fait, c'est juste une éponge. Puis il absorbe tout le matériel qui est là. Puis c'est à travers tous ces personnages-là, même à la grotte, eux autres ont une identité familiale pour lui aussi. Puis ben c'est à travers ce cheminement et toutes les plusieurs de scènes que l'ouragan commence à comprendre c'est quoi la famille pour lui en fait. Puis ça c'est une identité qui était très très importante pour nous. Aussi la famille c'est différent pour tous les individus je crois.
La question vaut pour vous deux, Patrice aussi. Est-ce que dans un long métrage comme ça, on se dit à certains moments, là, je vais pas arriver à ce que je voulais vraiment?
Ouais, quand même, hein, ça nous arrive tout le temps d'avoir un peu de vertige, savoir est-ce que, tu sais, en tournage, on collecte le plus possible d'informations pour qu'on va les utiliser ensuite en montage. Fait qu'on espère avoir les informations. Le temps va très vite en tournage. Il faut prendre des décisions rapidement. Donc, il y a des moments où où on regarde les rushs, les shots tournés deux jours avant, puis on est comme aïe, ça marche pas du tout. Mais heureusement, dans un long métrage, on a quand même le temps de je vais retravailler ça, je vais retravailler. Puis dans le court-métrage, par exemple, moi je viens du court-métrage, t'as 4 jours. Fait que après 4 jours, c'est vraiment t'as pas vraiment de repositionnement. Quand long métrage, t'as quand même un peu plus de repositionnement, mais le vertige est très grand et ça prend beaucoup d'énergie. Un long métrage humainement, pour les gens aussi, ça prend beaucoup de ressources. Fait que à la longue, ça peut devenir très épuisant, en effet.
Ara?
Ouais, en fait, on raconte une histoire qui est tellement plus étoffé. Alors, ça prend le temps de... C'est pas évident parce que on se pose tout le temps la question, est-ce que je continue à raconter mon histoire de la bonne façon? Parce qu'il y a tellement de jours de tournage, il y a tellement de journées où on se lève très tôt, puis on veut pas perdre cet équilibre-là. Je sais pas si c'est arrivé à toi, mais moi, surtout, pour mes 2 longs-métrages, à chaque jour, je posais la question à ma script, celui qui fait tout le contenu, qui regarde tous les raccords, en fait, c'est de regarder toutes les images. Est-ce que je continue à raconter mon histoire de la bonne façon? On perd le track parce que le court-métrage, c'est tellement plus petit. Mais le long métrage, c'est tellement plus étoffé, en fait.
C'est pour ça que je ne vais pas les visiter sur le plateau. Le travail, on le fait en amont. Une fois que ça tourne, nous, en principe, le travail est fait. Puis de faire des visites, parce que des fois, ça nous est demandé, ça ne nous est pas imposé, mais c'est demandé de la part de nos partenaires. Les ministères qui nous financent, les municipalités qui contribuent à notre financement, le privé aussi qui y contribue, eux, ça les intéresse. Ils sont intrigués par votre réalité, alors que moi, je leur dis, on peut y aller, mais c'est un lieu de travail. C'est comme arriver dans votre tour à bureau, puis décider qu'on fait visiter votre édifice, ben on dérange. Et j'ai cette conscience-là que, puis je l'apprécie, je sais que je suis allée une fois sur votre plateau avec le maire, parce qu'il faut aussi être reconnaissant à l'égard de la communauté.
C'est un retour à la communauté. C'est important quand même d'inviter les gens.
Mais on sait que vous êtes en processus créatif, donc...
Il y a des journées plus faciles que d'autres.
On essaie d'être bien conseillés là-dessus. Ouais.
Et moi, comme critique, on est invité comme critique à aller sur les plateaux. Il y a des journées de plateau, mais c'est très mis en scène, ces journées-là. Moi, j'en ai jamais visité, parce que ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Le processus, j'aime en jaser avec vous comme on le fait ici après chaque projection. Mais moi, je me vois un peu comme au restaurant. Je reçois le plat, mais j'ai pas besoin d'aller en cuisine pour voir tout ce qui se passe. Voilà.
Un petit mot juste pour finir ce premier plateau. « Quand l'amour se creuse un trou », c'est ton autre long métrage, Ara, qui sera diffusé samedi à 16h. Un étudiant va tomber amoureux de sa voisine de 73 ans. Je ne l'ai pas vu. Mais ça m'a fait penser au niveau du speech à une pièce de théâtre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Harold et Maude. Forcément, ça nous évoque ça. D'où est venue l'idée d'écrire cette histoire? Comment ça s'est passé, ce processus créatif?
Oui, en fait, c'est un long métrage que j'ai écrit en 16 jours. Je l'ai écrit pour ma grand-mère qui m'a montré Harold et Maude quand j'étais jeune. C'est pas nécessairement un hommage au film, c'est plus un hommage au cinéma avec moi et ma grand-mère. Et c'est un micro-budget qu'on a tourné un été, 19 jours de tournage. Et ouais, C'est une petite histoire d'amour osée, en fait. Puis il y a beaucoup de folie dans le film. Puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, alors j'ai hâte de le revisiter, en fait.
Mais moi, je l'ai vu deux fois. Moi, je l'ai vu deux fois. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Bon, tous les critiques, on a un genre cinématographique pour lequel on a un faible. J'aime l'histoire d'amour un peu impossible. Celle-là, c'en est toute une. Puis ça reste punk. Ça reste du Arabal, tu sais. C'est ça qui est le fun. On reconnaît sa signature parce que c'est pas une histoire d'amour conventionnelle. Puis il y a un petit côté trash, sale quand même, malgré que ça reste quand même très gentil. Mais on reconnaît la signature d'Ara.
Diffusé donc ce samedi à 16h et l'ouragan Fuck You Tabernac, ce sera vendredi à 21h dans le cadre de la soirée Punk Is Not Dead. Est-ce que t'es d'accord avec ça, Ara?
Est-ce que quoi?
T'es d'accord avec le fait que Punk Is Not Dead?
Ah oui, 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 plus que jamais en fait. En 2010, j'avais des inquiétudes, mais là où ce qui est rendu, puis je pourrais dire à Montréal, à chaque fois je vais aller voir un punk show, c'est rendu. Rempli, puis le punk est tellement plus présent. Et je dis souvent à des amis, je trouve ça vraiment impressionnant que le punk, il outlast. Et le beaucoup de bands des années 80 qui existent même plus encore, et ces vieux bands existent encore au jour. Fait que de pouvoir être un cinéaste qui fait du matériel punk, puis pouvoir être quelqu'un qui adore ça, puis continuer à aller voir en show. En fait, je pourrais parler de ça pendant des ans, parce que j'adore le punk. Puis je pense tout le monde qui veut une belle soirée, venez voir le film parce qu'il y a vraiment beaucoup de musique punk. Puis après, puis je pense que vous allez avoir une soirée remplie d'émotions.
On va écouter Raskanine juste dans un instant, le temps de faire le changement de plateau. Merci beaucoup à tous les trois. Patrice, ton film Jusqu'au déclin diffusé ce soir, jeudi à 21h. Marie-Josée pour les films Laurentide, merci beaucoup. Et Daniel, oui, un petit dernier mot.
Oui, ben c'est seulement la deuxième projection mondiale de ce film-là. Il faut vraiment venir vivre l'événement.
Ben oui, il y a eu la pandémie.
Oui.
Le lendemain.
Allez, le temps de faire une toute petite pause, de changer de plateau. On écoute deux morceaux de Raskanine, un groupe local qui jouera demain soir, vendredi, à la salle des œuvres, juste après le film d'Ara. Merci beaucoup à tous les trois et excellent festival.
Merci.
retour en direct de la place de la mairie de la salle du conseil municipal de Florac pour le festival Vue du Québec sur Radio Bartas et Télédrail. On est en direct. Daniel est toujours avec moi.
Toujours là.
Le deuxième plateau va bien se passer, hein, comme
ah
le
bah
premier.
Ah oui, mais ça va être... Que du moment. Une suite logique pour la suite du monde.
C'est fou, comme c'est bien fait. Et pour ce deuxième plateau, nous ont rejoint Alexa Jeanne Dubé. Bonjour.
Bonjour.
Tu es comédienne et réalisatrice. Tu es ici pour présenter ton premier, alors moyen long métrage, comment on dit ?
Long métrage.
Long métrage. Sucré 16, ce sera diffusé ce samedi à 18h. C'est ça, on en parle avec toi
exact.
Dans un instant. On est également avec Henri Verlardé. Bonjour.
Bonjour.
Les rayons Gamma sera lui diffusé dans la foulée ce samedi à 21h. Je tiens à signaler tout de suite que je n'ai pas vu ce film, je te l'ai dit.
Oh, il faudra le voir samedi.
Eh ben voilà, séance de rattrapage samedi avec plaisir. Et enfin, nous sommes aussi avec Marie-Hélène Rioux. Bonjour.
Bonjour.
Tu es coordinatrice au bureau du cinéma du Saguenay. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors, Marie-Hélène, j'ai juste eu à lire la première phrase de la petite bio du livret pour te poser la première question. Gestionnaire culturel passionné qui fait preuve de vision et d'engagement dans son milieu, ça en jette. C'est quoi faire preuve de vision ?
J'aurais dû faire un film.
C'est quoi faire preuve de vision et dans le cinéma en général, québécois qui plus est ?
Ben faire preuve de vision, en fait, c'est de on se réfère aux événements. Moi, j'ai été directrice d'un festival de court-métrage pendant plusieurs années. Maintenant, je suis aussi, en plus d'être cordeau du bureau du cinéma, je suis au Festival du cinéma de la ville de Québec. Et donc, c'est de, je pense, avoir les idées claires sur où est-ce qu'on veut amener un événement pour faire rayonner les films québécois, évidemment, vers l'étranger, mais aussi faire connaître des films sur le territoire québécois par les cinéphiles québécois de l'international. Puis surtout, les festivals, c'est des lieux de rencontre, comme ici, d'ailleurs, à Florac. Créer ces rencontres-là, donc mettre les bonnes personnes ensemble pour qu'émergent des idées et des projets. Voilà.
On va parler d'ailleurs du nouveau partenariat que vous mettez en place avec la nouvelle dimension Vue du Québec hein, dans un instant. Donc le Saguenay, je pense que cette région, elle avait été mise à l'honneur ici en 2020.
Ben, c'était 2020, une édition un peu compliquée, disons. Je n'étais pas présent, c'est la seule fois que j'ai pas pu venir. Puis toi, tu étais supposé venir cette année-là aussi, puis ça n'a pas fonctionné. Donc le Saguenay, je pense, es-tu revenu? On va le refaire, le Saguenay. C'était comme un rendez-vous manqué, mais...
Ça s'est fait en ligne,
oui,
mais
c'est ça.
Mais je serai là la prochaine fois que ça va se faire.
Oui.
Quels sont les buts premiers du cinéma du Saguenay, en fait? C'est uniquement réservé au Saguenay ou au Festival québécois en général?
Le but du bureau du cinéma, c'est principalement faciliter l'accueil des tournages dans la région au Saguenay. Donc, faire la promotion de la région pour ça aussi. Et il y a quand même un bassin de créateurs et créatrices grâce à des institutions scolaires et tout. Donc, c'est de fomenter tout ça pour qu'il y ait de plus en plus de productions audiovisuelles.
On parlait avec Marie-Josée il y a un instant. Donc, eux, c'est les films les Laurentides.
Exact.
Est-ce que vous avez des liens, des contacts ensemble?
Vraiment, Marie-Josée, c'est comme ma mentor. et les Laurentides, la spécificité, c'est que c'est beaucoup plus près de la métropole, tandis que Saguenay, c'est à 5 heures de distance en voiture. Donc, on dit une région éloignée, c'est pas nécessairement très éloigné, mais assez pour compliquer les choses au moment de planifier un tournage. Donc, ça prend vraiment plus de mais ça prend beaucoup de facilité pour réussir à convaincre des gens comme Alexa Jeanne ou Henri de venir tourner chez nous. Mais vous êtes les bienvenus.
OK.
Avec plaisir.
On en prend vite.
Alors, vous innovez cette année, puisque en partenariat avec la Nouvelle Dimension, porteuse et organisatrice de ce festival, vous allez développer une résidence, en fait, c'est ça, une double résidence pour un ou une cinéaste documentaire, me semble-t-il. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Où en est ce projet exactement?
Bien, on en est au tout début. Ça, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis ici. On a visité l'endroit de la résidence. On va lancer l'appel à projet très prochainement pour l'accueil d'un Québécois à la fin du mois de septembre ici. Et ensuite, on va accueillir un cinéaste français sur Québec l'année prochaine et ainsi de suite. L'idée, c'est que les festivals, on peut aussi, avec nos organisations, se positionner au début, c'est-à-dire à l'étape de la création pour aider, pour ensuite en faire la diffusion. Moi, je trouve ça intéressant de faire ce pont-là puis de servir des endroits où est-ce que se situent nos événements pour stimuler la création puis permettre aux artistes d'avancer, mais dans des contextes différents d'écriture.
Le choix du documentaire, t'en parlais, hein, c'est l'essence même du cinéma québécois. En fait, le documentaire, il y a vraiment quelque chose d'important là-bas. Donc, pour vous, c'était tout à fait naturel. C'est-à-dire que la fiction n'aura jamais sa place, entre guillemets, ou alors les portes sont ouvertes dans les années à venir.
Ben, la raison pour laquelle le documentaire était une bonne idée, selon moi, c'est que ça permet à beaucoup plus de cinéastes des régions, autant d'ici que du Québec, de pouvoir y participer, dans le sens où c'est un type de cinéma qui est plus accessible pour des cinéastes en région plutôt que la fiction. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, vu qu'on est des festivals délocalisés des grandes villes, de se servir de ce lien-là là, pour une résidence documentaire.
Puis j'imagine les frontières aussi. Tu sais, les frontières entre la fiction puis le documentaire, on joue souvent là-dessus, fait que vous allez sûrement être assez ouvert aussi sur les propositions qui vont être...
Absolument. Je pense qu'il y a aussi des projets multidisciplinaires. On n'a pas parlé de format non plus, si c'est court ou long. On va être assez, ça va être assez souple, tout ça.
Est-ce qu'il y a déjà, entre guillemets, ce que j'appellerais un cahier des charges pour quelqu'un qui voudrait postuler et se dire, voilà, il faut répondre à tel critère? Est-ce que ça, c'est déjà défini ou alors c'est en cours de préparation?
C'est exactement en cours de préparation.
Alors, tu reviendras nous en parler en septembre?
Tout à fait, avec plaisir.
Et là, une virgule si tu m'offres le voyage. Justement, est-ce que le cinéma québécois en général, selon vous, d'ailleurs tous les trois, prend de l'importance ici en France? Est-ce que vous trouvez qu'il y a de plus en plus un attrait pour le cinéma québécois par rapport à il y a 10, 15 ans? Même Daniel, toi, tu peux répondre aussi.
Oui, bien, si tu peux me permettre. Juste l'année passée, je pense qu'il y a 13 longs-métrages québécois qui ont pris l'affiche en France, puis c'était un record. Cette année, on va battre ce record-là. Je pense que ça va monter jusqu'à 16. Vu du Québec est devenu distributeur. Vu du Québec se spécialise dans les films qui attiraient peut-être moins l'attention des distributeurs français. Donc, Guillaume fait un travail remarquable. Moi, j'ai juste hâte que l'Assemblée nationale au Québec, on lui donne un prix. Il va l'avoir mérité pour tout ce qu'il a fait pour le développement du cinéma québécois en France. Il y a aussi... il y avait la plateforme aussi, cinémaquébécois.fr, où est-ce qu'on peut suivre l'actualité du cinéma québécois en France. Donc, oui, il se passe beaucoup de choses qu'il n'y avait pas. On a Sylvain Garel qui est présent, qui va présenter cet après-midi un film québécois sur le FLQ, parler de son livre. Mais Sylvain, lui, avait le Festival du cinéma québécois à Blois à l'époque. Et on a comme pris le relais. Et puis, c'est devenu comme le lieu du cinéma québécois en France. Puis maintenant, il y a plein de petits festivals de cinéma québécois. Toi, tu t'en vas en Espagne après? Aussi pour
exactement,
un festival.
On fait la première édition du festival qui s'appelle Festival québécois en Espagne. Donc, un peu pour suivre l'exemple de Guillaume. Et peut-être que plus il y aura de festivals de cinéma québécois en Europe, plus les films seront vus et que ça va donner envie à la France de se positionner encore
exact,
plus.
Exact. Il y en a un en Italie, il y en a un au Mexique. Donc, le Festival québécois, en ce moment, oui, est en pleine explosion. On avait un court-métrage nommé aux Oscars et c'est fréquent. Notre court-métrage est très, très bon au Québec. Donc, nos courts-métrages voyagent beaucoup, les longs aussi. Il se passe quelque chose en ce moment.
Donc c'est super parce que nous en France on a la chance d'avoir un cinéma qui est subventionné quand même supérieur. C'est la même dynamique au Québec en ce moment, c'est-à-dire que pour avoir des financements pour faire un film etc, c'est simple. OK.
Ben non, mais vous avez un avantage, c'est que vous taxez, vous avez une taxe spéciale sur le prix des billets qui va directement, ça on devrait vous copier.
Je veux dire, ça facilite certainement.
Ben, oui, parce que les
la
films
chose à faire, mais
c'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Les Américains sont juste à côté, en fait, ils ont une mainmise un peu
ils possèdent
sur nos
salles. C'est ça. Mais ce serait vraiment la chose à faire pour financer notre cinéma là, comme ici. C'est incroyable. Vous produisez comme un film par jour en France ou presque. Ouais. C'est hallucinant.
Ben, Guillaume, hein, ouais, deux films par jour et Guillaume qui est là, qu'on salue vraiment. Ben voilà, tu seras député bientôt à Québec, donc. Allez, on revient aux choses sérieuses. Après trois courts-métrages, Alexa Jeanne, tu as sorti l'année... C'est trois, hein?
Oui.
Pas de bêtises. Tu as sorti l'année dernière cette fresque, cette symphonie pour adolescence Secret 16. Alors, on s'est cueillir par ce film. Je vais avouer, je vais être dithyrambique, je m'en excuse, mais la photographie est géniale, la musique est géniale, les comédiennes sont géniales. C'est l'adaptation cinématographique de la pièce de Suzy Bastien, Oui. Alors attention, il n'est pas question que de poésie, il y a énormément de termes abordés dans ce film, et soyons clairs, certains sont d'une violence sans nom. Les mots posés dessus sont parfaits, révoltants, on va y revenir. Mais déjà, comment elle a commencé l'aventure de cette adaptation ?
C'est pas une adaptation, comment dire, c'est un projet qui est assez spécial, qui est arrivé de manière saugrenue dans ma vie, mais en fait c'était le Théâtre de l'Obsis, qui est un théâtre à Montréal, qui montait cette pièce-là de Suzy Bastien, donc Sucré 16, et la metteur en scène cherchait quelqu'un pour faire une captation qu'elle qualifiait de plus de sa pièce. Donc là, elle m'a approchée, puis j'étais comme, ben oui, tu sais, je peux faire ça, mais elle voulait pas que ça soit au théâtre. Fait que rendu là, j'étais que ben c'est un petit peu un film parce qu'il faut que je trouve des locations, un lieu, tout ça. Donc j'ai fait une proposition un peu de ma lecture de la pièce, de comment moi je le mettrais en scène, puis elle m'a vraiment donné carte blanche. Donc c'était avec les comédiennes avec qui elle travaillait, c'était le texte tel qu'il était. Donc c'est ça que je veux dire, c'est pas une adaptation au sens où j'ai pas adapté le texte. C'est vraiment, puis c'est pas une matière qui est cinématographique. C'est un texte qui pratiquement littéraire, c'est des monologues. Les comédiennes s'adressent à la caméra. Donc, c'était difficile de mettre ça en scène d'un point de vue cinématographique. Donc, c'est ça. Elle m'a approchée en mai 2022, puis en août 2022, on tournait en 9 jours avec un budget de captation théâtrale qui est de 50 000 $.
Et oh mon Dieu, c'était seulement ça.
Post-prod incluse.
Wow.
Et puis, ça a été ça.
Parce que Ben, moi aussi, je ne suis que dithyrambique par rapport à ce que tu as réussi à faire avec le matériel. On va parler merci. Ensuite des rayons gamma puis d'Aloise de Pluton. Il y a eu beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle le coming of age, les récits initiatiques au Québec. Mais je trouve que le tien, c'est celui qui achève toutes les récits initiatiques. On dirait que tu es allé dans les extrêmes, mais c'est positif là, ce que je dis. C'est que la pièce va tellement loin.
Oui.
Ose tellement, et toi, avec la forme que tu as décidé de prendre, forme qui était déjà très présente dans ses courts-métrages, je trouve que ça fait comme exploser le truc. Bravo.
Eh bien, merci.
La photographie. Alors, si j'ai bien appris quelque chose du cinéma québécois, c'est en général, c'est le travail sur la photographie.
Ouais.
Je ne savais pas ce que c'était que de faire chef de la photographie. Je ne savais pas ce que c'était. Vous me l'avez appris. Et ton film en est la preuve par A plus B, c'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont complètement dingues. Comment t'as bossé et avec qui t'as bossé?
En fait, j'ai travaillé avec Émilie Mercier, qui est une photographe argentique, vraiment de la photographie. Puis c'est la première fois qu'elle faisait de la direction photo, donc elle travaillait avec une caméra. Puis je voulais son œil parce que j'avais vraiment envie de créer des tableaux, quelque chose qui est proche des arts visuels. Puis comme la pièce, bon, je l'ai dit, c'est des monologues, j'avais vraiment envie que l'univers visuel soit très fort, qu'on évoque aussi des choses de manière poétique, symbolique, parce que comme on décrit l'action, je voulais pas montrer une action qu'on décrivait déjà. Donc c'est ça. Fait que j'ai trouvé des lieux autour. Ben, Émilie, la directrice photo, aussi a un chalet à Watton, qui est dans les cantons de l'Est, et moi aussi. Fait que c'est tous des lieux qui sont autour de nos chalets respectifs. Puis c'est ça. Puis Émilie, elle travaille qu'avec la lumière naturelle, par manque de connaissances techniques, mais aussi par sensibilité. Elle a toujours travaillé comme ça. Puis fait qu'on a juste travaillé. Il y a aucun éclairage. Puis c'est ça, c'est comme ça qu'on a travaillé, juste avec ce qui était là, dans le fond.
Et puis parlons de la musique, on s'est croisés au bar quand tu es arrivé. Voilà, je t'ai dit direct, j'ai pas encore vu ton film, c'était le jour de l'ouverture, j'ai eu la chance de le voir. La musique, donc j'ai vu la bande-annonce, un morceau de clarinette. Ma compagne clarinettiste, elle s'est arrêtée, elle dit « le son de la clarinette est juste parfait ». Auditeur, auditrice, vous allez avoir le son. Pour Télédrive, vous allez avoir l'image. On y va, bande-annonce.
Salut, cousin.
Salut.
J'ai hâte de découvrir la ville. J'aimerais bien visiter.
Ah oui, c'est vrai que c'était la tienne, ça. Je me disais, tiens, je reconnais pas la clarinette.
Non.
Les joies du direct.
Voilà.
Ah.
Alors moi, ça me transporte, mais vraiment, c'est dingue. Et alors, si vous voyez les images avec le film, la musique transporte les propos dont on parlera dans un instant. Qui sont les compositeurs? Je crois qu'il y a, trois styles et trois compositeurs différents.
Ouais, exactement. Donc on a, j'ai travaillé avec Hologram, Eric Shah et Guillaume Bourque. Puis il y a aussi Organ Mood qui nous a donné une chanson, puis Étienne Copé. Bref, tous des musiciens québécois. Puis ouais, en fait, comment on a travaillé en montage, c'est qu'on y allait vraiment monologue par monologue, puis après on a monté la matière qui lie le tout. Puis à chaque fois qu'on tombait dans un texte, on dirait que j'avais besoin de musique. Puis à chaque fois c'était un style différent, donc ça s'est créé par après. J'ai fait appel à des musiciens différents pour avoir vraiment comme un ADN spécifique à chacun des textes. Puis je trouvais que par la musique, on arrivait aussi à c'était tellement émotif, la musique, fait que ça allait de soi. Je trouvais que ça supportait bien le tout. Puis j'ai donc décidé de prendre un peu la forme d'une symphonie pour structurer mon film. Donc, c'est ça que j'ai divisé en plusieurs mouvements, puis parce que le film était très musical.
Alors, les sujets abordés sont parfois très poétiques, très légers, et puis il y a des sujets absolument terribles, incestes, viol, harcèlement. Les mots sont d'une dureté absolue, mais d'une justesse, et c'est très bien porté par les comédiennes. Dans une société qui en avait fait des tabous de ces sujets, c'est en tout cas comme ça, moi, que j'ai ressenti. Ça permet de les remettre au centre de quelque chose et d'y redonner l'importance qu'il faut leur donner sans jamais de vulgarité, avec une justesse pure. C'est ça, c'est ton objectif et celui de Suzy Bastien.
Ouais, oui, vraiment. En fait, ces mots, ces mots là, tu sais, qu'on met en scène, puis que Suzy Bastien d'ailleurs qui aura jamais vu la pièce ni même le film parce qu'elle est décédée en un an avant qu'on tourne en 2021 rapidement d'un cancer dans la cinquantaine, donc je l'ai jamais rencontrée, tu sais, je sais pas d'où venait exactement ce désir de prendre parole, tu sais, parce que c'est pas une jeune femme quand elle a écrit ça, mais je sais qu'elle avait eu une résidence de création en France justement pour écrire un monologue, bref, puis elle en avait écrit juste un, puis après ça elle s'est dit ok, je vais en écrire d'autres, puis c'est devenu la pièce qu'on connaît. Mais je trouve que la justesse dont tu parles vient beaucoup du texte, tu sais. Moi je l'ai supporté, je l'ai capté, mais c'est vraiment les mots qui nous transportent à travers le film, je trouve, en tout cas.
Et tes actrices qui deviennent un peu les instruments de musique de cette symphonie-là,
exact.
Qui sont tellement bonnes et véridiques.
Ouais.
C'était pas facile, les textes sont vraiment exigeants.
Vraiment.
Moi, j'ai été bluffé.
C'est ça, puis c'est très littéraire, là, tu sais, il y a une poésie, tout ça, tu sais, il y a même des textes qui riment, puis tout ça, tu sais, qui sont en tout cas très très poétiques. Mais étant donné aussi que les actrices, elles répétaient la pièce en même temps, elles ont joué dans le film avant de jouer la pièce, fait qu'elles étaient comme en période de répétition aussi, fait que tu sais, ça a été le premier contact qu'elles ont eu avec l'œuvre. Ça a vraiment été de tourner, puis après ça ils ont fait une tournée dans les maisons de la culture, mais tu sais, je les ai pratiquement pas dirigées là.
Mais c'est ça qui est fort, c'est qu'on dirait que c'est leurs histoires qui ont vécu, chacune d'elles, qui nous transmettent.
Ben, un autre truc qui est intéressant aussi de savoir, c'est que comment la distribution a été faite, c'est que les filles qui venaient auditionner pour ça, elles choisissaient le texte qu'elles avaient envie de porter. Fait que ça s'est fait comme ça, avec un intérêt personnel. T'sais, je
ça
sais
paraît.
Pas, sans rentrer dans le personnel, je dis pas qu'elles ont vécu ça, mais en tout cas, ça venait les chercher personnellement. Fait qu'elles décidaient pour quel texte elles voulaient performer, puis elles ont été choisies en fonction de ça. Ouais.
Bravo. Vous allez passer une heure de bonheur, pas que, parce qu'il y a quand même des moments où on fait...
Ouais, il y a des moments tough.
Mais en tout cas, c'est génial. Sucré 16, c'est diffusé ce samedi à 18h. Et ce sera suivi des rayons gamma de Henri. Je ne peux pas le répéter, mais quand même, je n'ai pas eu le film. Donc, c'est Daniel. Mais oui, je n'ai pas encore eu le temps. Mais ce n'est que partie remise. Et ton autre film, À l'ouest de Pluton, sera lui diffusé ce dimanche. Alors, par contre, ce que j'ai compris, c'est que les acteurs, actrices de ces films sont non professionnels.
Exact.
Alors, les mauvaises langues diront que c'est pour faire des économies. Blague à part, pourquoi avoir fait ce choix?
Pour faire les économies. Pourquoi faire? Moi, j'aime, même dans mes courts-métrages aussi, travailler avec des non-professionnels, avec des professionnels aussi, mais quand un acteur... je pense qu'on a tous un acteur, au moins, en tout cas, la plupart des gens peuvent jouer au moins un rôle. Puis quand ils sont à la bonne place, les gens, quand ils sont bien choisis pour faire un personnage, ils peuvent aller très loin. Donc, moi, je crois à ça vraiment. Puis il y a plein de cinéastes que j'aime qui ont fait ça aussi, là, de Ken Loach, les frères Dardenne et compagnie. Donc, oui, c'est... Puis j'avais envie de parler au départ de l'adolescence. Puis en fait, dans l'Ouest de Pluton, l'idée, c'était de passer 24 heures avec des jeunes... avec des jeunes de la banlieue et que ce ne soit pas des acteurs professionnels de 25 ans qui jouent des jeunes comme on voyait à l'époque. Ça fait quand même quelques années que ce film a été fait. Donc, c'était vraiment de prendre des vrais jeunes, évidemment. Pourquoi pas? Et pas des jeunes qui sont des agences non plus. Donc, on est allé, c'est ça, avec ma collègue dans notre ancienne école secondaire. Puis moi, c'est ça, je voulais faire une fresque un peu à la Magnolia ou, tu sais, un chassé croisé la nuit. Donc, c'est ça le point de départ. Et voilà, et c'était un peu la même chose, le même genre de film avec les rayons gamma aussi.
À l'Ouest de Pluton, ce qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est qu'on a très, très peu de films cultes au Québec. Il y en a peut-être 3-4 gros maximum. Et à l'Ouest de Pluton, c'en est un. Il s'est créé...
Mon Dieu!
Mais tu le savais pas?
Oui.
Ah non, c'est... Mais à l'Ouest de Pluton, là, c'est une référence pour tellement de monde. Maintenant, tu l'as co-réalisé avec Myriam Véraud, pardon, qui a réalisé par la suite Quasipan. Et vous avez réussi à créer quelque chose qu'on n'avait jamais vu au Québec. Vraiment, on n'avait jamais vu. Il y avait eu Wow de Claude Jutras, où est-ce que...
Mon père joue dedans.
C'est oui?
Dans Wow.
Avec Monique Simard.
Ben oui.
Ben, on en rejasera tantôt, je veux des potins. Ouais. Mais à l'Ouest de Pluton, il y a eu très peu de projections et à chaque fois que le film est projeté, ça se vend là, comme des petits pains chauds. C'est un film vraiment auquel tout le monde revient. On parlait d'authenticité au début, mais c'est ça. Et l'approche est documentaire aussi. Donc, on est très, très proche du documentaire, on y croit beaucoup. Et tu as réussi à recréer ça avec les rayons gamma. On avait hâte de voir ton premier film solo. Franchement, il a réussi à coter à l'Ouest de Pluton. Bravo.
Merci.
Bravo, c'était tout un défi. Avec les non-professionnels, je sais à quel point ça peut être difficile.
Ça peut être difficile, mais c'est un long travail, en fait. C'est un peu une démarche documentaire. C'est qu'on reste longtemps avant de tourner avec ces jeunes-là, comme pour un documentaire.
Exact.
Puis, donc, moi, je fais des ateliers autour de thèmes. Puis surtout, les rayons gamma, ça a été tourné à Montréal, dans un quartier Villeray-Saint-Michel. Puis il n'y a pas, tu sais, nous, il y a l'improvisation, donc c'est comme le sport de l'impro, tu sais, qui existe dans des écoles. Mais eux, il n'y a pas ça à leur école. Donc, il n'y avait jamais fait d'impro. Ces jeunes-là, même s'ils étaient dans un cours de théâtre, ils ne connaissaient pas ça. Donc, ils se sont eux-mêmes prêtés au jeu, puis ont réalisé qu'ils étaient de très bons improvisateurs, puis que la spontanéité, puis l'humour incroyable qu'ils ont dans la vie, puis le naturel qu'ils ont, évidemment, quand ils échangent un trou, ben, ils pouvaient le transposer, puis le mettre dans un film. Et ça les a encouragés, je pense, en le faisant. Ils ont vu que c'était possible, puis on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup ri aussi avant de tourner tout ça. Donc, voilà.
Ben, c'est une des forces, justement, de la cohésion du groupe.
Ouais.
La force du groupe, de l'ensemble. Pareil comme dans ton film aussi. Ces films-là, faut que le groupe fonctionne, qu'il soit tissé serré, là, comme on dit au Québec. Bravo.
Si tu peux m'envoyer la bande-annonce de Sucré 16.
Cette fois.
Salut, Kouza.
Salut.
J'ai hâte de découvrir la ville. J'aimerais bien visiter le stade olympique, ça c'est un incontournable.
Regardez-moi cette beauté-là. Regardez-moi les courbes.
Tu viens d'où?
Du Maroc.
C'est pour ça la coiffure africaine.
T'es trop gentille, c'est pas bien.
Je préfère être trop gentille en payer les conséquences.
Ok, donc tu préfères te faire tuer que tuer quelqu'un?
Clairement.
Fragile.
Déjà, c'est pas trop mon truc, ça.
Non, laisse ça de ta bouche, qu'est-ce que tu fais?
Je me brosse les dents.
Avec ma brosse à dents? Mais je te débule ou c'est quoi?
Tu fais pas dans leur monde, tu vois.
T'as pas vu Omar?
Il est où?
Il a perdu.
Non. C'est quoi ces conneries?
On te dit qu'il l'a perdu, il l'a égaré.
Tu veux que je t'égare ou quoi?
Ouais, c'est bon.
Fatima, tu fais quoi? Tu fais encore des trucs louches?
Non, tu te trompes, frérot. J'en ai jamais fait, de toute façon. Moi, je vais arrêter.
T'es folle ou quoi? C'est moi qui décide quand t'arrêtes ou quoi, là?
Les gens se font une image de nous. Ils croient nous connaître. Ils pensent avoir trouvé qui en est. Ça les rassure.
Vous voyez où dans 5 ans, vous?
Moi? Millionnaire.
Mais au fond, ils savent rien sur nous. Absolument rien.
Oui, il y a un petit truc qu'on a oublié concernant Alexa Jeanne. Il y a un brunch avec toi aussi.
C'est vrai.
C'est dimanche à 11h.
Oui, exactement.
À l'Ambuscade, juste à côté de la mairie ici.
Exact. Faut réserver parce que...
Ça part vite.
Ça part vite.
Je sais pas s'il reste bien encore.
Comme des petits pains chauds.
Comme des petits pains chauds, c'est... En tout cas, réservez votre place.
Jusqu'à vendredi, hein, vous avez pour réserver, je pense. Vendredi soir. Ouais. Revenons au rayon Gamma. Tu as écrit avec Nicolas Criff et Isabelle Brouillette. Mm-hmm. C'est ça. Comment ça s'est passé, ce travail d'écriture en trinôme?
En fait, j'étais, comment dire... C'est moi qui étais sur le terrain avec les jeunes et qui avait les idées de départ, les trois idées de départ, les trois histoires. Donc, j'ai écrit des scènes à scène et eux, je leur ai donné ça. Et ils sont intervenus dans le scène à scène au niveau des... Ils ont dialogué certains bouts. On sait... Nicolas fait les cousins, l'histoire des cousins. On a comme... on est revenu, ils m'ont donné des idées aussi au départ. Donc ça a été comme ça. C'est moi j'étais sur le terrain, puis avec cette puis eux après ça repassaient là-dedans. Après ça c'était un peu du back and forth. Moi je sais plus parler en
anglais. Ping-pong, ouais.
Des allers-retours, voilà, ouais, tout simplement. Et c'est ça. Et après les jeunes sur le plateau, ben, je leur disais un peu de dire ça dans leurs mots. Donc il y a certaines lignes qu'on gardait. Et des fois, on gardait tout le texte, et des fois, on gardait rien, ou presque, certains mots, mais c'est que je leur dis, faut que ça soit dans... Appropriez-vous les scènes. C'est comme ça qu'on a fait.
Et Nicolas Krief a participé à 3 scénarios de films qui sont présentés jusqu'au déclin.
Très productif.
Ce soir, très belle journée. Et Nicolas, c'est très drôle, le monde est vraiment petit, parce que j'ai longtemps fait de la radio avec lui à CIBL. C'était un de mes chroniqueurs à mon émission de cinéma.
20 courts-métrages avant de basculer vers les longs. Comment s'est passée la bascule entre ces 20 courts-métrages quand même c'est énorme. À quel moment tu te dis, bon, ça y est, on y va, quoi?
Ben moi, je viens de Kino. Kino, c'est on fait des films, c'est parti à Montréal. C'est des projections mensuelles qui avaient lieu. Moi, j'ai démarré la cellule de Québec, donc... Quand j'ai fait un kino à Montréal, et ensuite je leur ai dit, hey, je vais partir une cellule, une franchise à Québec. Et avec Kino, on faisait, dans le premier cabaret Kino qu'il y a eu à Montréal, on faisait chacun un film par jour pendant 10 jours presque. Tu sais, c'était fou. Donc, c'est pas tous des grands films, évidemment. C'est des expérimentations, c'est des tests, c'est des courts-métrages quand même. Souvent, tu sais, ça tient la route. Mais donc c'est ça, c'est des films qui ont été créés dans l'urgence très rapidement, puis j'en ai fait beaucoup plus que 20 en fait. mais pour être honnête, mais c'est pas tous des, tu sais, je sais pas si j'ai des copies de ça de toute façon. En fait, j'avais envie après de j'ai eu envie de raconter quelque chose d'utiliser cette méthode là de tourner en équipe légère. Mais de le faire sur le long terme, de faire ça, et puis d'aller vraiment au bout de quelque chose, de faire vraiment un film plus long. Et c'est comme ça qu'est né À l'ouest de Pluton. C'est que j'ai eu cette envie-là de faire un film la nuit, choral, et qui allait se faire sur une longue période. Je pensais que ça allait prendre 3 semaines, ça a pris 1 an et demi. Mais c'est ça, tu sais, c'est autre chose, mais... Mais voilà, donc ça m'a... Mais ça a été mon école, Kino. J'ai fait des bricolages, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai essayé, puis j'ai fait plein d'erreurs, puis c'est ce qu'il faut aussi.
Et c'est le 25e anniversaire de Kino cette année. Kevin T. Landry, Jour de merde, c'est un kinoïste, un très grand kinoïste. Laurence Côté-Collins, qui a gagné l'an passé avec Bungalow, très grande kinoïste. Donc, ça a été une école pour beaucoup, beaucoup de monde. Et Kino, il y a eu des cellules partout sur la planète, là, jusqu'en Russie. Ils sont promenés. Ouais. Puis,
on est allé en Russie, d'ailleurs, faire un cabaret.
T'es allé en Russie, toi? Ouais. Ah oui. Bon, on va plus tellement en Russie maintenant.
On va moins en Russie.
Mais,
c'est moins la mode.
Qu'est-ce qui se passe?
Oui, c'est ça.
Je sais pas pourquoi.
En tout cas, est-ce que quand on sort d'un long métrage, question vous pour vous deux, qu'il est fait, est-ce qu'on a besoin de ce temps de pause, de se dire ok, de digérer tout ce qui vient de se passer, ou alors est-ce qu'on a envie de repartir sur quelque chose, une nouvelle aventure tellement ça devient addictif finalement?
Ah, c'est les deux, je pense, en même temps. C'est très contradictoire. J'ai vraiment envie de partir sur d'autres choses, d'écrire autre chose en même temps. Je veux apporter ce bébé-là, qui est un petit enfant qui marche. Je veux être sûr qu'il va dans la bonne direction. Puis j'essaie de tu sais, je suis allé justement à Mexico. Tu sais, j'essaie d'aller le présenter, qu'il soit vu, parce qu'au Québec, il n'a pas été vu longtemps. Donc, c'est sûr que pour le travail de tout le monde aussi, tout le monde a fait ce film-là. Et c'est pas juste moi. Donc, c'est beaucoup de monde. C'est des jeunes. Je veux qu'ils soient vus, ces jeunes-là. Donc, il y a cette envie-là. Mais oui, il y a aussi l'envie de tourner la page, forcément, puis de passer à autre chose, mais puis de créer. Donc, c'est les deux en même temps. C'est un peu... j'ai besoin de prendre des vacances un peu, peut-être. Pour...
Alexa, ta caisse, c'est d'accord
moi,
avec ça?
Moi, c'est vraiment l'envie de repartir. Tout comme... Oui, c'est ça. On dirait quand moi, c'est fait, c'est fait. Puis là, j'ai vraiment le goût... Ouais.
Notre point commun, c'est que vous avez bossé avec des jeunes. Quels conseils vous leur donnez si jamais ils ont envie de se lancer dans le cinéma? Et quels conseils vous donneriez aux jeunes qui auraient envie de s'y lancer? Vas-y! N'hésite pas à te casser la gueule.
Derrière la caméra ou devant?
Peu importe.
Moi, je pense que c'est de tourner, de faire des trucs, de ne pas attendre, comme on a fait justement, de faire avec peu de moyens, même si c'est avec peu de moyens, de se lancer, ouais. De se donner, de se montrer, de faire des choses. Ouais.
Moi, je dirais que ça serait, tant comme acteur que créateur, ça serait de garder son unicité, dans le sens où je pense que qu'est-ce qui rend un artiste intéressant ou même un acteur, c'est quelque chose qui lui est spécifique que d'autres personnes n'ont pas. Puis je trouve que des fois, on a tendance à vouloir tous être un peu pareils puis de faire les choses tous de la même façon. Mais je pense qu'il faut vraiment garder notre couleur à proposer ce qu'on est puis notre envie première. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on se démarque puis qu'on devient intéressant.
Puis je pense que plus on en fait, plus on découvre cette couleur-là. Plus on découvre notre voix.
C'est ça.
C'est pour ça que c'est important d'en faire.
Ouais.
Puis de ne pas avoir peur du risque. Il faut prendre des risques, il faut se lancer.
Il ne faut pas essayer de faire quelque chose de bon. Faut
non.
Juste essayer de faire quelque chose qui est sincère.
Ça. Je rencontre des jeunes dans des universités là, puis les questions c'est souvent là, tu sais, la pression, ils sont beaucoup là-dedans.
L'anxiété
de performance, c'est incroyable. Je suis comme arrêtez là, vous allez pas faire un chef-d'œuvre, c'est pas grave, vous allez pas faire ça là. Vous allez, tu sais, faites-en, puis tout simplement.
Mais une porte d'entrée qui peut être intéressante, c'est d'être bénévole dans un festival de cinéma.
Complètement.
Le dire.
Ouais. Parce que là, tu rencontres le milieu, tu peux voir des films, tu as accès aux cinéastes, tu as accès aux acteurs, actrices. Puis au Québec, on a beaucoup de festivals de cinéma, donc il y a moyen de s'impliquer. Puis combien de personnes ont commencé là, puis ensuite ont monté les échelons tranquillement?
C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. Tu sais, dans les deux cas ici, vous avez travaillé. Puis un film, ça se fait pas tout seul. Fait qu'il y a beaucoup de. Tu sais, je parlais de rencontres au début de la conférence. Puis c'est vraiment dans les festivals que ça peut se passer, où tu rencontres des pairs ou des gens avec qui tu as envie de travailler ensuite puis d'échanger. Donc, autant comme bénévole que comme cinéphile, d'être curieux puis de fréquenter les festivals, je pense que c'est un bon conseil à donner à des futurs cinéastes aussi.
Être curieux, c'est bon aussi, de lire plein de choses, s'intéresser à l'actualité, lire, voir toutes sortes de films. Ouais. Pas juste, c'est ça encore là, tu sais... pas juste penser à soi, qu'est-ce que moi, tu sais, non, l'autre, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a, c'est qui? Puis aller rencontrer du monde, il y a plein de monde intéressant partout.
Oui, excuse-moi. Puis à Florac, vous êtes privilégié, vous avez un des derniers clubs vidéo au monde.
C'est vrai.
Un super bon club vidéo. Parce que maintenant, les plateformes, il y a des algorithmes qui trichent, qui te suggèrent toujours les mêmes choses un petit peu. Tandis que là, tu peux fouiller. Puis moi, c'est comme ça que j'ai fait mon éducation. Plus le film avait de poussière dessus, plus il m'intéressait. Donc, j'essayais de louer les films que personne touchait. Puis c'est comme ça qu'on fait notre cinéphilie en se trompant, en regardant des merdes, mais après, en voyageant, en trouvant un film d'un autre pays qu'on n'a jamais visité. Ouais.
Remettez des lecteurs DVD dans les ordi.
Oui.
Il n'y en a plus.
Malheureusement.
Oui, oui. Soirée adolescence, en tout cas, c'est ce samedi 6 avril avec Sucre 16 de toi, Alexa, et Les Rayons Gamma, celui juste derrière de toi, Henri. Peut-être un petit focus sur le jeune public aussi.
Tu lis dans mes pensées. Ben, regarde, j'ai la page dessus. On s'en est même pas parlé, mon Dieu. Jules au pays d'achat. Sophie va arriver. Où elle arrive, je sais pas quand elle... elle arrive samedi, mon Dieu. Cet après-midi, pardon. Je vais sortir mes lunettes pour pouvoir venir. Donc, c'est à 10h30 à la Genette Verte, Jules au pays d'achat, qui est un très, très beau film tourné dans les Laurentides, qui met vraiment les Laurentides à l'avant-plan. C'est le premier long-métrage de Sophie Farkas-Bolla, qui est une monteuse très connue au Québec et qui enfin se lance dans l'aventure du long-métrage. Très beau film pour la famille. Tous ceux qui nous écoutent présentement, qui ont des enfants, venez voir ça en grand nombre. Sophie sera présente, on va pouvoir échanger avec elle. Et après, ben, on ira bruncher avec Alexa.
Exact.
VIP.
Ouais. Dans la foulée, en tout cas, tellement de belles choses qui vous attendent dans ce festival. On n'est qu'au début, hein. Tout va bien.
Oui.
Voilà. Je vois les cernes tous les yeux. C'est une soirée 40.
Hier, ça a été bien, oui. Hein, Marie-Hélène? On a bien profité.
Très bien, quand même. J'ai gagné un prix au karaoké.
Oui.
C'est pas peu
dire. C'est vrai, elle a gagné un prix.
Sachez aussi que jeudi soir, donc ce soir, vous avez une soirée jeu de société aussi, juste après le film Jusqu'au déclin, qui est organisé en partenariat avec nos copains de Floracopoli, des jeux survivalistes. Ça va être intéressant. Évidemment, le concert de Raskanine, qui est après le film de Hara, donc vendredi soir. Et puis tout le week-end, encore plein de choses sans vous être pas reposé. Hein, je vous le dis direct. Ben voilà, c'est la fin de cette émission en direct du Festival Vue du Québec. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci beaucoup, Daniel.
Merci, Ben. Merci, Léa.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Le temps pour moi de remercier Guillaume Sapin, directeur et coprogrammateur de ce festival, pour nous avoir permis de faire ces plateaux vraiment et d'organiser ce festival qui grandit, mais pas trop quand même. C'est
pas
pour
trop.
Ça qu'on est content. De remercier Christian, Pierrette et Raphaël à la technique pour Télédrail, Léo pour Radio Vartas. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est à chaque fois un plaisir. Profitez bien de ce festival. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. RadioBartas.net et Télédrive, c'est .org. Je ne me trompe pas. Merci à toutes et tous. Vive le cinéma québécois, vive le cinéma en général. À très bientôt. Ciao. À partir de 10h30 à la salle du conseil municipal de la mairie de Florac, Télédrail et Radio Bartas vous proposent Entre Drail et Bartas, un plateau exceptionnel en direct du Festival Vue du Québec.